Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient, dans l'émission « Et si on en parlait ?» Et pour l'émission d'aujourd'hui, nous avons choisi d'examiner un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours, à savoir les déclarations d'un professeur de philosophie, Didier Lemaire, qui était enseignant dans le lycée de Trappes, et qui a parlé notamment de Trappes comme un territoire perdu pour la République et sous l'emprise communautaire d'un islam radical. À partir de là, il y a eu énormément de réactions. De Trappes, c'est devenu un sujet un petit peu national, et on a décidé donc d'analyser cette séquence politico-médiatique avec plusieurs personnalités. Et mon premier invité, c'est Thomas Guénolé. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politologue, essayiste, et vous aviez écrit il y a quelques années « Les jeunes de banlieue mangent-ils les enfants ?» aux éditions Les Bordelots. Et l'objet de cet ouvrage, finalement, c'était un petit peu de déconstruire les stéréotypes. Alors, moi, la première question que j'ai envie de vous poser, l'affaire de Trappes. Est-ce que c'est l'illustration de clichés que vous aviez dénoncé, ou est-ce qu'il y a quand même une réalité, c'est-à-dire celle de territoires qui seraient en butte à une emprise croissante d'un islam radical ?
Je vais peut-être vous surprendre, mais je ne vois pas en quoi les deux affirmations seraient incompatibles. Ce que je veux dire, c'est que, à mon avis, ce qui pollue les discussions et le débat public national dès qu'il est question de l'état des banlieues en France, ce qui pollue les discussions, c'est que c'est confisqué par des positions caricaturales et totalement symétriquement opposées. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez des gens qui vous expliquent que les banlieues, de manière générale, sont des territoires qui fonctionnent un peu comme des califats islamiques ou comme Kaboul sur Seine, voyez-vous, et qu'il n'y a plus rien à en espérer d'un point de vue républicain, que la charia y règne, que les terroristes s'y forment, etc., etc. Ce qui ne correspond pas à la réalité. Et puis, vous avez une autre caricature qui serait le fait de refuser purement et simplement d'admettre l'existence de ces problèmes, l'existence des problèmes de poches d'islamisme radical existant dans certaines rues ou dans certains quartiers en France, le fait de contester, de nier qu'il existerait un problème grave de criminalité et de délinquance frappant un certain nombre de quartiers qu'on appelle des banlieues, le fait donc d'être non pas dans la caricature qui voit tout en noir, mais dans la caricature qui voit tout en rose, alors que ce n'est pas vrai. Et donc, la première question à se poser, c'est si on essaye de regarder les choses de manière calme, posé, et moi je suis un scientifique de sciences humaines, donc je suis rationaliste, si on regarde les choses de manière rationnelle, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que tous les problèmes qui sont évoqués par les discours anti-jeunes de banlieue, tous ces problèmes sont vrais et existent, mais, et c'est un énorme mais, tous ces problèmes sont provoqués par une infime minorité de la population des banlieues. Je vous prends quelques exemples pour être concret.
Bien sûr.
Est-ce qu'il y a des dealers de shit qui viennent des banlieues et qui sont dans les banlieues ? Oui, absolument, c'est un secret de polichinelle. Moi-même, je vis dans le Haut-Montreuil, je vis en banlieue en vous disant ça. C'est vrai que ça existe, bien sûr que ça existe, mais sur une cité, mettons, de 10 000 habitants, 12 000 en comptant les clandés, vous allez avoir combien de trafiquants, de dealers de shit au total ? Pour quadriller une cité de 10 000, vous allez en avoir quoi ? Allez, maximum une vingtaine, et je compte large.
C'est un pourcentage très minime d'une population globale.
Exactement, c'est ça. C'est que s'ils sont une vingtaine de jeunes, en supposant qu'ils soient de la cité, ce qui n'est pas vrai, parce qu'en général, un dealer de shit, il ne vit pas dans sa propre cité parce qu'il a peur de tomber sur ses parents. Mais donc, parce que c'est des jeunes, si vous en avez une vingtaine, qui sont généralement des garçons, vous avez 10 000 habitants. Sur ces 10 000, vous en avez la moitié qui sont des jeunes, effectivement des jeunes de banlieue. Donc on est à 5 000. Sur ces 5 000, vous avez la moitié qui sont des mecs. On est donc à 2 500. Et donc si vous en avez une vingtaine sur 2 500, je vous laisse faire le calcul, on est dans un ratio qui veut dire que c'est même pas 1% de mémoire qui est concerné par le phénomène. Donc oui, le phénomène est vrai, mais c'est une quantité absolument infime de la population des jeunes de banlieue qui cause ce problème-là. Et d'ailleurs, l'écrasante majorité des jeunes de banlieue, pendant ce temps-là, eux, subissent les problèmes provoqués par l'infime minorité. C'est vrai pour le deal de shit, C'est vrai pour le vandalisme, le fait de péter des abribus, par exemple, qui est un grand classique, ou le fait de s'installer avec des copains en train de zoner, en quelque sorte, sur les escaliers en bas d'un immeuble, et vous faites énormément de bruit, et donc vous empêchez les gens qui vont bosser le lendemain de dormir. Ça existe, tout ça, mais encore une fois, c'est toujours une infime partie. Je vais vous prendre un autre exemple qui n'est pas en France, mais qui est célèbre. C'est Molenbeek. Moi, quand il y avait eu il y a quelques années, tout un délire médiatique sur Molenbeek, qui serait une espèce de califat en plein Bruxelles, vous voyez. Moi, à l'invitation d'un reporter photographe que je connaissais, je suis allé sur place avec lui et j'en ai tiré une série d'articles qui avaient été publiés par le site internet de l'Obs à l'époque et où j'avais décrit que oui, effectivement, il y a une partie de Molenbeek où vous êtes clairement dans une emprise complète d'un islamisme radical qui est à fond pour un califat, qui est plutôt franchement complaisant envers le terrorisme, etc. C'est vrai, ça concerne très exactement deux rues dans tout Molenbeek qui fait à peu près la taille d'un arrondissement parisien. Et donc, quand monsieur le maire que vous citiez tout à l'heure dit à tel ou tel endroit à Trappe, il y a des signes évidents d'un repli communautaire avec soit un communautarisme sur base musulmane, soit carrément une forme d'islamisme radical. Moi, je suis parfaitement prêt à le croire. Je suis pas allé faire de terrain en tant que sociologue à Trappe, mais je suis parfaitement prêt à le croire. Simplement, je suis, compte tenu des cités que j'ai déjà examinées en tant que sociologue, compte tenu des différentes villes que j'ai pu examiner, j'ai fait beaucoup de terrain à Stein, ou à Clichy-sous-Bois, et dans d'autres villes, bien sûr. Je ne serais pas étonné que ce dont il parle concerne soit simplement certains quartiers, soit des morceaux de quartier, soit carrément juste une rue. Et donc, quand il dit « il y a ces problèmes-là », ben moi je pense qu'il a raison. Et quand le maire de Trappe dit « mais attendez, notre ville ne se résume pas à ça, ces problèmes existent, mais l'écrasante majorité de notre population, elle déteste l'islamisme et elle n'a pas du tout une pratique sectaire ou communautariste de sa religion quand elle est musulmane », je pense que le maire de Trappe a raison aussi. Et donc le problème fondamental dans le débat, à mon avis, c'est pas une façon très sexy de poser le problème, j'en conviens, mais le problème fondamental, c'est que les gens s'envoient des positions, des points de vue, des opinions à la figure, mais ne quantifient jamais le problème dont ils parlent. Et donc, quand vous ne quantifiez jamais, en fait, vous allez dire, il y a des problèmes de ceci, il y a des problèmes de cela. Mais si vous ne rappelez jamais que c'est quelque chose de massif ou au contraire de marginal dans la population, vous n'examinez pas sérieusement le problème. Et un spécialiste de ça, je suis désolé de le dire parce que c'est un confrère qui est politologue, il s'appelle Gilles Kepel. Gilles Kepel, c'est systématiquement le biais dans son travail. C'est que c'est quelqu'un qui vous fait des études sociologiques tout à fait respectables, où il vous dit, regardez, là, on a examiné telle famille ou telle rue, etc., où on constate une islamisation sous une forme radicale, etc. Et je ne doute pas que ces observations soient vraies. Simplement, il ne quantifie jamais ce qu'il étudie. Et donc, pendant ce temps-là, il passe à côté du fait qu'à l'heure où je vous parle, et ça, ce sont les travaux quantitatifs d'un autre politologue qui s'appelle Vincent Tiberge, qui est un spécialiste des phénomènes quantitatifs d'islam en France, lui vous dit, étude après étude, enquête quantitative après enquête quantitative, il vous dit, à l'heure où je vous parle, littéralement, vous avez approximativement 75% de la population française de confession musulmane qui est déjà totalement intégrée ou totalement assimilée. Et donc, et je vous parle même pas du fait d'être islamiste, c'est pas du tout le sujet, hein. Là, je vous dis simplement intégration, assimilation. Et le quart qui reste, c'est vrai qu'ils ont une vision des choses qui est ils sont musulmans réfractaires, c'est-à-dire vous avez un quart de la population française de confession musulmane, c'est vrai, qui est, dont la vision de sa propre foi est à la fois réactionnaire, rétrograde, et ils ont une vision communautariste de ce que devrait être la pratique de la foi, et donc les lois républicaines, l'égalité homme-femme, la laïcité, c'est vraiment pas leur truc, c'est vrai. Pendant ce temps-là, je le répète, littéralement les trois quarts de la population française de confession musulmane sont des gens qui sont totalement assimilés ou totalement intégrés.
Pour autant, le débat médiatique et politique, puisque c'est devenu aussi un débat très politique, même y compris au niveau national, dérape systématiquement sur ce sujet-là, mais c'est déjà arrivé avant sur d'autres sujets, vers une forme de refus d'appliquer des arguments raisonnables à des problèmes réels. Et donc on est systématiquement dans une forme de polarisation et d'hystérisation où finalement on a bien d'un côté on l'a vu, les gens qui ont pris fait et cause pour Didier Lemaire sans vérifier son propos qu'il a d'ailleurs lui-même corrigé après sur certains aspects. D'autres qui ont pris fait et cause bien pour Ali Rabé, pour les trappistes, en disant c'est une stigmatisation, c'est intolérable, etc. Et entre les deux, finalement, eh bien, c'est un petit peu le néant du débat, quoi. Voilà, c'est, on est soit avec les uns, soit avec les autres, mais enfin, on peut pas faire un peu...
Alors que la bonne approche, c'est de faire un reportage de terrain. Moi, c'est ce que j'avais fait pour le Molenbeek, j'étais allé sur place. Et tout de suite, enfin dans les trois jours qui ont suivi, en fait, j'y étais allé, je vous le disais tout à l'heure. Et donc, ce que j'avais constaté, c'est que les problèmes décrits étaient vrais, mais que ça concernait littéralement deux rues sur un territoire qui faisait la taille d'un arrondissement parisien. Vous voyez ?
Oui, parce que, par ailleurs, il faut aussi le rappeler, c'est vrai qu'on a eu en 2014 77 trappistes qui sont partis faire le djihad en Syrie.
Que vous par ailleurs, la population totale de trappes ?
Ah, sur une population de 32 000.
Sur une population de 32 000, ils étaient combien, vous avez dit ?
77.
Ben voilà. Moi, j'ai rien à ajouter, hein. C'est que...
Oui, réalité, mais bon, après, il y a des villes où il n'y a eu aucun départ. Je veux dire que c'est, voilà, c'est toujours pareil. Oui. Par exemple, c'est vrai que dans le débat autour de Trappes, notamment des gens du Rassemblement National ont dit, c'est de là que sont partis le plus grand nombre de djihadistes. Bon, il se trouve que c'est faux, c'est de Nice. Mais ils ont mis ce débat, cet argument dans le débat, et après, on se focalise là-dessus, et on oublie, effectivement, le reste.
Vous disiez, c'est de Nice?
C'est de Nice, oui. Il y a eu 150 départs.
Écoutez, vous m'apprenez cette information. Ça m'étonne parce qu'effectivement, le cliché qu'on a l'habitude d'entendre, c'est que c'est nécessairement la Seine-Saint-Denis ou en tout cas francilien.
En tout cas, faire attention au cliché.
Bah bien sûr, oui, on est d'accord là-dessus. Et oui, donc déjà, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que le débat se passe avec des gens qui se jettent sur les stéréotypes dans un sens ou dans un autre et dans une cacophonie épouvantable, ça a plusieurs raisons. D'abord, il faut garder à l'esprit que c'est comme ça qu'on débat dans ce pays aujourd'hui sur les chaînes info et les réseaux sociaux, sur tous les sujets. Et donc, quand on aime avoir des débats sérieux et rigoureux, on va considérer que c'est n'importe quoi, mais dans ce cas-là, il faut aussi admettre que la façon dont on débat sur tous les sujets aujourd'hui dans le débat public français, c'est du grand n'importe quoi. On fait venir des gens qui n'ont aucune expertise sur le sujet, mais qui viennent quand même donner leur avis, ou qui vont parler d'un truc dont ils n'ont jamais été ni experts, ni témoins, ni même victimes si c'est un truc négatif. On va éditorialiser dans tous les sens, mais en exprimant en fait que des opinions, mais même pas des opinions informées, puisqu'on va pas, ou informantes, puisqu'en même temps on va pas citer tel ou tel fait, on va juste dire chacun sait bien que, on sait bien que, etc. Et ça c'est juste, c'est du bistrot filmé.
Et on a ah oui, c'est un peu ça, ça oui. En fait.
C'est de plus en plus ça, c'est des conversations de bistrot filmées. Qui renforcent dans leur...
Regrette du coup droit de réponse, parce que à l'époque de Michel Pollack, qui avait un peu médiatisé cette manière de débattre, en fait, il y avait quand même du fond
TADI,
des fois.
C'est l'héritier TADI avait construit une émission qui s'appelait Ce soir ou jamais, qui était pour moi l'héritière directe de droit de réponse de Pollack, puisque c'était construit à peu près de la même manière. Et moi, je me souviens, j'étais invité assez régulièrement chez TADI, je me souviens qu'il y avait une qualité d'écoute et une qualité des intervenants exceptionnel, et qu'on pouvait vraiment débattre de manière polie, respectueuse, réfléchie, calme, intelligente, sur absolument tous les sujets. Je constate qu'une émission aujourd'hui, une émission comme Ce soir ou jamais, à l'heure actuelle, ça n'existe pas. Donc ça, c'est un problème, c'est un signe des temps. Ça, c'est un premier élément de réponse. Ensuite, à mon avis, il y a aussi le fait que... chacun projette un certain nombre de démons intérieurs personnels dans cette discussion. Déjà, vous avez tous les gens qui sont d'extrême droite ou de droite dure, essentiellement, et qui, en fait, quand ils vous disent « il y a un problème avec l'immigration », en fait, ils sont en train de vous dire qu'ils ont un problème avec les Arabes. Quand ils vous disent qu'il y a un problème avec la laïcité, en fait, ils sont en train de vous dire qu'ils pensent qu'il y a un problème avec les Arabes. Quand ils vous parlent d'identité nationale, en fait, ils vous disent que en France, il y a quand même un problème avec les Arabes, etc., etc. Et donc, quand ils vous disent immigration, islam, laïcité, insécurité, en fait, ils vous disent j'aime pas les Arabes, j'aime pas les Arabes, j'aime pas les Arabes, j'aime pas les Arabes. C'est tout. Et il y a certaines chaînes info qui sont construites là-dessus, c'est carrément leur ligne éditoriale. Bon. Et donc, il y a déjà ça. Mais il y a aussi ceux, et ça, faut pas le négliger, il y a aussi ceux dans une gauche plus, comment dire, il y a toute une partie de la gauche radicale ou de la gauche de type ce qu'on appelait il n'y a pas si longtemps l'aile gauche du PS. Il y en a une partie qui est tombée, à mon avis, dans un truc, un piège malsain. Je vais vous le décrire le plus simplement possible. C'est mes convictions de gauche me font défendre les gens victimes de discrimination et de racisme. Et donc, toute personne qui rentre dans cette catégorie, je vais prendre sa défense. Problème. Si c'est quelqu'un qui est en train d'afficher, d'exprimer des choses totalement contraires à vos valeurs de gauche, vous vous retrouvez à soutenir des gens qui sont pour qu'on fasse porter le voile aux femmes, et vous vous retrouvez à expliquer que toute expression de différence culturelle est super, alors qu'il y en a qui sont totalement contraires à la République. Et où là aussi il y a un problème, c'est d'être totalement dans le déni par rapport au fait qu'il existe des incompatibilités de valeurs. Et que donc s'assimiler ou simplement s'intégrer.
Est-ce qu'on peut les qualifier pour autant? Est-ce qu'on peut les qualifier pour autant, puisque c'est un peu le terme qui est repris, y compris au plus haut niveau par le gouvernement, d'islamo-gauchiste, cette gauche-là?
Non, parce que pour moi, d'abord j'ai un problème moi avec la construction sémantique du mot islamo-gauchiste, parce que ça me fait penser à judéo-bolchévique. Et j'ai vraiment un problème.
C'est un peu l'idée, c'est un peu l'esprit, quoi.
Et donc ça, je trouve ça vraiment tordu et franchement nauséabond comme construction sémantique. Après, je comprends ce que ça désigne. Et pour moi, ça correspond à une frange encore plus radicale dans ce que je viens de vous décrire, c'est-à-dire des gens qui vont considérer des organisations comme le Hamas comme étant des camarades de lutte, quoi.
D'accord. Ça, oui, là, on va loin. Ça va loin. Là.
Mais oui, mais il y en a.
Oui, il y a une forme d'extrémisation aussi. Oui, bien sûr.
Vous avez ça. Vous avez aussi, pour vous prendre des exemples plus simples, vous avez des gens. Vous avez de plus en plus de militants dans des forces de gauche. Qui sont tout à fait ouverts à ce qu'on appelle l'indigénisme. Et ça pose aussi des problèmes. C'est-à-dire cette façon de considérer comme présumée coupable et solidaire du racisme toute personne ayant la peau blanche. Cette façon-là de poser le problème est prodigieusement malsaine.
Absolument.
Puisqu'elle réduit toute personne à sa couleur de peau, ce qui est la définition même du racisme, quelle que soit la couleur de peau à laquelle on s'attaque.
C'est le début du racisme, mais dans un autre sens, quoi.
C'est ça, et en fait, et d'ailleurs, quand je dis ça, je suis absolument certain que s'il y avait un indigéniste en face de moi sur votre plateau, la première chose qu'il dirait, c'est « mais vous dites ça parce que vous êtes blanc ». Vous voyez, et c'est difficile de faire comprendre immédiatement à quelqu'un qui pourrait avoir des sympathies pour les indigénistes qu'il y a un problème vraiment profond sur le simple fait de poser les problèmes de cette façon, c'est-à-dire de poser les problèmes dans un cadre de réflexion qui est dès le départ raciste et communautariste. C'est-à-dire que finalement, au lieu de répondre au racisme par l'antiracisme, on répond au racisme par un racisme à front renversé. Et donc finalement, on contribue à la racisation définitive de la société. Et donc c'est complètement idiot. C'est légitime aux États-Unis parce que les États-Unis n'ont jamais été une nation universaliste. Ça a toujours été une nation au fonctionnement communautariste. Et aux États-Unis, ils trouvent ça normal. Vous regardez les séries télé américaines, vous avez des séries télé où il n'y a que des blancs et des séries télé où il n'y a que des noirs. Et quand vous avez des personnages en mixité, vous avez des couples qui sont des couples noirs et puis des couples qui sont des couples blancs et ça ne se mélange pas. C'est la société américaine. Voilà. D'ailleurs, j'ai jamais vu, moi, un couple mixte à la Maison Blanche. Jamais.
Pas encore, remarque. Je me dirais, les États-Unis, parfois, ont aussi surpris. On a tous, effectivement, en tête l'élection de Barack Obama dans un pays où qui a été un des derniers à défendre l'esclavage. Thomas Guénolé, c'est la fin de notre émission.
Oui, bah écoutez.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je pense qu'on y voit un peu plus clair sur le sujet qu'on a souhaité aborder dans la première partie de l'émission. Je rappelle que vous êtes politologue, essayiste. Vous êtes l'auteur des Jeunes de banlieue mangent-ils les enfants? C'était aux éditions du Bordelot. Vous aviez sorti cet ouvrage il y a quelques années. Et donc, on vous remercie encore une fois pour avoir participé à l'émission et on vous souhaite bon courage et à très bientôt.
Merci. Toujours un plaisir, Alexis. Au revoir.
Merci, Thomas. Au revoir.
Et si on en parlait? Du temps, de l'information, des explications, une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient dans la deuxième partie de l'émission « Et si on en parlait ?». Dans la première partie de l'émission, on a essayé d'analyser la séquence politique et médiatique autour des déclarations de ce professeur de philosophie, Didier Lemaire, qui a parlé de Trappes comme un territoire perdu de la République, perdu car soumis à l'emprise d'un islam radical, et puis le maire de Trappes, Ali Rabé, qui a défendu sa commune, qui a refusé une forme de stigmatisation. Didier Lemaire lui-même est revenu sur certaines de ses déclarations, mais en a maintenu d'autres, et finalement il y a eu une crispation forte ces derniers jours autour de ce débat et de la situation à Trappes. Pour analyser cette séquence avec nous, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre-Emmanuel Guigot.
Bonjour.
Vous êtes historien, maître de conférence à l'université Paris-Créteil, auteur l'année dernière d'une biographie de Michel Rocard aux éditions Perrin, et vous êtes aussi expert sur les sujets de communication politique. Et là, le moins qu'on puisse dire, c'est que les jours qui ont précédé, il y a eu énormément de communication, de politique, de bataille rangée entre des politiques, entre des éditoriales, des éditorialistes, pardon. Ça a déployé un monde fou, ces déclarations de Didier Lemaire.
Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même une disproportion assez nette entre d'un côté les faits, qui sont quasi nuls en fait, hein, de l'affaire, puisque concrètement il n'y a pas grand chose, et la réalité d'une couverture médiatique qui a été énorme. Alors peut-être moins que la couverture du Covid ou des mois précédents, mais vu les faits en question, cette couverture est quand même très disproportionnée, et à mon sens correspond assez bien à une tendance médiatique de ces dernières années, qui est une crispation autour des questions identitaires, qui sont des sujets qui passent bien dans les médias, qui attirent de l'audience parce qu'ils sont très conflictuels, parce qu'ils rebattent les cartes des grands clivages politiques tels qu'ils étaient auparavant, qu'ils mettent en porte-à-faux les partis politiques face à leurs propres convictions, que ce soit d'ailleurs la gauche comme ce soit la droite. Et donc c'est des sujets qui médiatiquement attirent de l'audience, suscitent de l'intérêt, sont feuilletonnants en plus, hein. Puisque ça permet des répétitions. Là, on l'a vu, il y a eu d'abord les premiers articles, l'interview dans Le Point de Didier Lemaire, puis après d'autres interviews, puis les reprises sur les chaînes d'information continue, puis les polémiques en réponse via Lemaire ou d'autres personnalités politiques. Et on va continuer encore comme ça pendant plusieurs jours. Donc ce côté feuilletonnant, finalement, plaît beaucoup aux médias et explique cette couverture disproportionnée.
Alors on a aussi finalement, comme vous le dites, au départ une situation, factuellement pas extrêmement tendue, mais qui, dans un récit qui se construit épisode après épisode, a un effet sur le réel, puisque d'une part on a des menaces sur Didier Lemaire et une demande de protection policière. Et puis quelques jours plus tard, Ali Rabé s'étant mis un petit peu en opposition à certaines de ses déclarations, ayant pris parti de défendre les habitants de sa commune, s'est à son tour retrouvé menacé, a déposé plainte et finit aussi avec une protection policière. Donc au départ, on a un débat qui aurait pu se mener, de façon raisonnable, apaisée, qui se termine, après une séquence d'hystérisation médiatique, par deux personnalités qui se retrouvent sous protection policière et un pays qui, pendant quelques heures, quelques jours, s'empaille littéralement, alors qu'en réalité, il y a très peu de gens qui ont été à Trappes et qui savent vraiment ce qui s'y passe.
Oui, c'est ça d'ailleurs qui serait le plus intéressant. En l'occurrence, je pense que tout ça s'inscrit dans le train de plus long de la mort de Samuel Paty. Et en fait, la déclaration de Didier Lemaire, c'est cet état de choc, de sidération, qui a été celui des Français quelques jours avant le confinement de cette mort de Samuel Paty terrible.
Oui, de cet attentat horrible qui a marqué les esprits.
Tout à fait, et c'est ça qui explique aussi cette hystérie ambiante autour de ce qui a été dit sur Trappes. D'ailleurs, ces questions à la fois d'insécurité pour les enseignants et de difficulté d'aborder certains thèmes, en réalité, ça fait des années qu'elles sont déjà là, qu'elles sont latentes, qu'elles sont remontées par les enseignants. Simplement, elles n'avaient aucun écho médiatique parce qu'elles n'étaient pas jugées suffisamment intéressantes, pas jugées suffisamment pertinentes. Il n'y avait pas d'actes suffisamment graves pour que d'un coup, les médias s'en saisissent. la mort de Samuel Paty a rendu, en a fait un véritable enjeu public et du coup explique que désormais, ce qui n'a été là que des propos finalement, à partir d'une réalité vécue par, par un enseignant, eh bien tout d'un coup ont pris une ampleur absolument démesurée. Et jusque-là, en fait, ça n'était pas une question. Et ce qui est en plus gênant, c'est qu'il n'y a pas de travail de fond qui est fait. C'est-à-dire que cette enquête pour savoir si la situation est trap est plus difficile qu'ailleurs, eh bien, ce travail-là, il n'est pas fait. Il devrait être fait par des sociologues, il devrait être fait, pourquoi pas, par des journalistes, mais des vrais journalistes de terrain. Et la seule chose qu'on a, c'est finalement le grand guignolesque de Jean-Marc Morandini, qui se rend dans la ville, avec d'ailleurs un exercice préparé en amont, avec les autorités locales, et assez léché, finalement, pour éviter que les choses... soit trop spontané. Donc au final, on a quelque chose qui plaît aux chaînes d'information continue parce que ça fait direct, parce que ça fait terrain, et qui en réalité est du totalement fabriqué et n'a rien à voir avec avec ce qu'est la réalité de terrain.
Il y a une sorte de télé-réalisation, un mélange entre reportage et télé-réalité, effectivement, auquel s'est livré Jean-Marc Morandini avec l'accord, on va dire, des gens qui souhaitaient donner une autre image de la ville et donc une sorte de publi-reportage en direct.
Oui, c'est totalement ça. On avait vraiment cette impression de télé-réalité telle qu'on l'a, on a l'habitude de les voir pour des célébrités ou autres, mais appliquer à un reportage sur un sujet d'enquête. On attendrait d'ailleurs que la presse papier, qui a une couverture en général plus sérieuse que ce que font les chaînes d'info en continu, s'empare un peu de ce type de sujet et fasse des sujets de fond. À ma connaissance, pour le moment, ce travail-là n'a pas été fait en profondeur et devrait être fait.
Alors, c'est vrai qu'il y avait eu quand même un ouvrage justement de Raphaël Baquet et d'Ariane Chemin sur Trappe qui s'appelait La Communauté.
Oui, tout à fait.
Et donc, il y avait une enquête un peu plus journalistique et du coup un peu plus nuancée qui effectivement évoquait ces phénomènes de montée du communautarisme et d'une radicalisation peut-être dans la pratique religieuse de certains habitants et aussi qui évoquait bien des réalités sociales contrastées avec une ville où effectivement il y a une histoire avec l'immigration, il y a une partie de la population qui vit dans la précarité et bon, mais comme beaucoup d'autres communes, sans qu'on puisse en tirer des enseignements définitifs sur... C'est vrai que ce qui a aussi marqué les esprits, c'est cette formule « territoire perdu de la République ».
Oui, qui est une expression qu'on retrouve déjà depuis des années dans la presse, sur les chaînes d'information en continu, plus particulièrement à droite, voire à l'extrême droite, et qui vise à dire qu'en gros, il y aurait deux France. Il y aurait une France qui serait entre guillemets encore française, et puis il y aurait une autre France qui serait justement perdu, et donc quelque part à reconquérir, et à reconquérir comment ? Eh bien par la force, par un État fort, ce qui est évidemment périlleux, parce que c'est pas là la solution. La solution, c'est pas de considérer qu'il y a des territoires qui sont perdus, c'est d'essayer d'éviter justement que cette fracture continue encore à s'accroître, et en essayant de réconcilier finalement ces territoires et d'arriver à une forme d'harmonie, d'égalité qui évidemment sera toujours illusoire, mais au moins d'une certaine équité territoriale.
Alors vous l'avez souligné, c'est vrai que la réaction au propos de Didier Lemaire, elle s'explique probablement par l'attentat contre Samuel Paty et le fait qu'à ce moment-là, des signaux et des propos n'ont pas été peut-être suffisamment pris au sérieux, et ce qui a abouti à la tragédie que nous connaissons, et du coup cette fois-ci certains médias se sont dit on va pas laisser passer et on va vraiment prendre ça au premier degré et donner de la force à ce propos, sauf qu'effectivement on se rend compte qu'après ce professeur Didier Lemaire, il a peut-être un petit peu forcé le trait sur certaines anecdotes, sur certaines histoires, et que finalement, c'est toujours la même difficulté. C'est à partir d'un propos subjectif d'en faire un fait de société et une réalité acquise.
Oui, totalement. À l'époque, les médias étaient complètement passés au travers de l'affaire jusqu'à eh bien sa conclusion funeste. Et là, effectivement, il y a cette idée d'éviter la même erreur, sauf que les enjeux sont quand même différents. On avait à l'époque un professeur de collège en histoire géo et en l'occurrence en éducation civique. Là, on a un professeur de lycée. Les environnements sociaux sont aussi assez différents. Le cas Conflané que je connais bien via ma thèse, qui est en fait une ville beaucoup moins touchée par des questions de problématiques sociales que ne l'Étrappe, même si c'est deux villes des Yvelines. On est dans une sociologie qui est tout à fait différente. Donc on a quand même des situations qui sont complètement différentes, et pour les enseignants en l'occurrence, qui ne recouvrent pas du tout les mêmes choses, puisque Samuel Paty, il était vraiment victime déjà depuis une bonne dizaine de jours, bien d'une véritable chasse
hein, d'une campagne de dénigrement où son nom a été livré en pâture sur les réseaux sociaux.
Il a été appelé au meurtre, etc. Il n'y a rien de tel, d'ailleurs, ce qui explique le faible engagement de à la fois du ministre de l'Intérieur et du ministre de l'Éducation nationale, qui ont bien vu qu'il n'y avait pas là une affaire aussi importante que pour Samuel Paty. C'est pour ça qu'ils sont bien gardés d'intervenir et de montrer un soutien ferme à l'égard de ce professeur. Après, encore une fois, il ne faut pas relativiser les problématiques qui ont été mises en valeur, qui existent et qui sont remontées régulièrement et depuis maintenant des années, si ce n'est des décennies, par des enseignants de terrain qui sont confrontés. Ce dont on ne parle jamais d'ailleurs. Le plus grave dans toutes ces histoires, c'est pas tellement l'implication des maires, des élus. Le plus grave, c'est l'absence totale d'encadrement et d'aide à l'égard du corps enseignant de la part du ministère et des administrations de l'Éducation nationale, ça a été remonté à plusieurs reprises, notamment avec les hashtags pas de vague ou encore les stylos rouges il y a quelques années. Le corps enseignant est quand même en grande partie abandonné face à sa tâche, face à des requêtes qui sont toujours plus importantes, face à des moyens qui sont toujours plus faibles, et devant des publics qui sont parfois difficiles, et où on n'a pas les moyens d'encadrement véritablement pour y faire face. Donc je pense que le véritable scandale, il est en réalité beaucoup plus là, mais il est faiblement médiatisable.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire, c'est pas tellement de ça dont on a parlé au moment de l'attentat de Conflans-Sainte-Honorine. Et c'est pas non plus tellement de ça dont on a parlé à l'issue de cette séquence et lors des échanges à partir des propos de Didier Lemaire. On a tout de suite dérivé sur un débat beaucoup plus politique finalement, voire même idéologique, avec, on l'a vu, une prise en main du débat par les professionnels de la politique, ou je dirais même de la polémique, sur certains plateaux, et une forme de polarisation où en fait il y avait ceux qui prenaient fait et cause pour cet enseignant et qui poussaient le raisonnement jusqu'au bout en disant de toute façon il a raison et il faut une reprise en main, il faut voilà, et puis d'autres qui essayaient bien d'amener une certaine nuance et immédiatement entre les deux finalement c'est le néant quoi, c'est-à-dire que soit on était d'un côté soit on était de l'autre, et il y avait plus tellement de place pour une argumentation raisonnable.
Tout le paradoxe, c'est qu'en fait, on a une éducation nationale qui a très largement déserté certains secteurs de l'enseignement. Enfin, les établissements classés en REP voient depuis des années leurs effectifs fondre, leurs moyens fondre. Ça, c'est une réalité qui est jamais questionnée. Or, lorsqu'on parle de territoires perdus de la République, s'il y a clairement un moyen de réinvestir, c'est pas tellement dans les forces policières, enfin qui existent, qui y sont, mais c'est clairement dans l'enseignement et en donnant des moyens et en donnant aux professeurs la possibilité d'avoir des plus petits groupes, ce qui n'est pas du tout la politique actuelle. On leur demande de faire toujours plus avec toujours moins de financement, toujours moins d'effectifs. Et ça, ça ne fait qu'amplifier une situation qui est déjà tendue socialement au niveau local.
Oui, et bon, effectivement, on voit bien que ces tensions locales deviennent un problème national quand ils sont tirés sur un certain nombre de terrains, et effectivement, ça devient très compliqué d'avoir un débat argumenté quand on parle de la banlieue, de certains territoires, et qu'on y met effectivement aussi l'ingrédient de la religion. Ça, c'est aujourd'hui devenu un cocktail un peu explosif, et c'est à répétition dans les médias.
Tout à fait. Ce qui est intéressant quand même, après l'affaire Samuel Paty, c'est qu'on est abouti à un projet de loi qui est quand même très loin de ce qui finalement a amené la mort de cet enseignant. C'est pas un projet de loi qui protège véritablement le personnel éducatif ou des fonctionnaires en général. C'est pas tellement un projet de loi qui s'attaque aux racines du mal, mais c'est un projet de loi en fait qui détourne le sujet vers la question de l'islamisme, alors, qui est un vrai sujet. Et qui en plus contient le projet de loi tout un tas de mesures finalement qui encadrent les religions de manière plus générale, mais sans s'attaquer au vrai fond du problème, puisque notamment les religions qui vont être le plus touchées, c'est notamment la religion protestante, qui est en fait l'une des seules qui est véritablement rentrée dans la loi de 1905. Donc là aussi il y a un paradoxe entre ce qui est visé par un projet de loi qui déjà n'a pas de rapport avec l'affaire qui est censée l'avoir engendré, et en plus des conséquences qui sont quand même très loin de la réalité de ce qui est censé être fait.
Eh bien, merci Pierre-Emmanuel Guigot. Ce sera le mot de la fin sur le projet de loi contre le séparatisme dont on a parlé dans l'émission de la semaine dernière. Mais c'est vrai qu'on est dans cette actualité-là. Donc merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes historien, maître de conférence à l'université Paris-Créteil et membre du comité éditorial de la revue politique et parlementaire qui est notre partenaire sur cette émission. À très bientôt. Merci Pierre-Emmanuel. Et c'était la fin de l'émission Et si on en parlait sur Radio Orient.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.